Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Salut tout le monde, bienvenue à Ça tient la route en compagnie de mon ami Alain Mécanoc qui se gratte les yeux. Alain, l'avant-midi a été dur.
J'aimerais dire que je suis fatigué, mais c'est juste que mon écran est trop lumineux. C'est extrêmement
banal. Je pense que c'est l'âge. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Encore beaucoup d'actualités de ce temps-ci. Là, c'est une en arrière de l'autre. Les annonces se suivent à une vitesse fulgurante. Donc, on va avoir des actus. Tu vas nous parler de Ford, entre autres, qui ont revisé son programme de véhicules électriques.
Oui.
On va parler également, en fait, de Lamborghini qui n'est pas à vendre parce qu'il y a eu pendant 24 heures.
Ils sont pas à vendre.
Ben, c'est ça. Là, finalement, ils sont pas à vendre. On a parlé même d'une prochaine Audi A4 qui pourrait être partiellement et entièrement électrique. Ça, c'est intéressant. C'est sorti hier également. Aujourd'hui, en entrevue, on reçoit Tino Rossi. Les gens qui connaissent les morts du cycliste de la Chine, non, ce n'est pas Tino Rossi, le chanteur.
J'allais demander.
Ouais, oui, il y avait un sourire. En fait, Tino Rossi est connu du milieu cycliste. Il s'occupe des morts du cycliste depuis maintenant, je pense que c'est près de 30 ans. Et on va parler du partage auto-vélo sur la route.
Oui.
Parce que là, l'été est là, ou en tout cas, il fait 28 degrés, il fait chaud, c'est humide. Mais il y a du monde sur les pistes cyclistes. Moi, en tout cas, je suis moi-même un amateur de cycliste. Et cette année-là, c'est la variété est au rendez-vous. Là, j'ai vu des vélos électriques, des scooters, des marcheurs, des joggers, des gens en laisse avec leurs chiens, des vélos. Tout ça dans la même piste cyclable. Puis là, il faut se demander, là, est-ce que les infrastructures qu'on a en ce moment sont encore capable, disons, de supporter ce trafic-là. Est-ce que les réglementations sont les bonnes? Parce que j'ai vu des pistes cyclables. Bon, on a eu une dame qui est décédée dans le bout de Sainte-Ville. On va en parler, c'est la semaine dernière. Il y a des endroits où il y a des pistes cyclables. Pas sûr, je mettrais une piste cyclable là, moi.
Ben, c'est une question de culture aussi, parce que partager la route, c'est pas naturel pour tout le monde non plus.
Puis au Québec, c'est pas très naturel de partager la route, mais Tino Rossi va en parler avec nous un peu plus tantôt. En essai routier, tu nous présentes quoi aujourd'hui?
Ben, j'aimerais ça dire que je reviens à un classique. J'ai une Volvo S60 T5 Air Design. Là. Bon, les trois derniers mots de la phrase sont pas... Mais c'est une Volvo S60 à moteur 4 cylindres turbo. C'est une belle combinaison, j'ai été surpris. Pour le dire, on va en parler tantôt, mais rapidement, tu sais, on peut acheter une voiture hybride, une voiture turbo, puis si on fait beaucoup d'autoroutes, souvent le turbo peut être plus avantageux qu'une hybride.
Oui,
il y a quelque chose
la façon d'utiliser,
là.
Effectivement.
Ouais, donc, on va parler de ça tantôt.
Et moi, je vais vous parler de la Toyota Prius Prime, que je n'avais pas encore eu.
Ah oui?
C'est un modèle, à chaque fois qu'on me le proposait, où j'étais pas là, où j'avais pas le temps, où j'avais d'autres choses.
Donc là, tu vas avoir un regard frais sur ce véhicule-là.
Voilà,
que
j'avais pas essayé. Puis, écoute, c'est un véhicule hybride rechargeable. Là. Il faut le prendre pour ce que c'est.
Populaire.
Mais intéressant, on va en parler un peu tantôt. Donc, on va revenir à nos actus. Alain, Ford prépare un nouveau plan de véhicules électriques, en fait, qui a été présenté, c'est littéralement aujourd'hui.
Appelons ça l'après-Lightning, je ne sais pas si ça se dit chez Ford. parce qu'évidemment, il y a eu le dévoilement du F-150 Lightning, l'édition tout électrique de la camionnette de Ford, qui a fait pas mal plus jaser que ce que j'attendais, que ce que j'anticipais. D'ailleurs, les précommandes, semble-t-il, sont à un niveau inouï là, pour Ford.
On a fait comme 20 000 dans les deux premières heures, puis on a franchi le 40 000 dans la première journée.
Exact. Donc ça, c'est un peu une semaine avant, je sais pas si c'est une assemblée annuelle chez Ford, mais en tout cas, c'est quelques jours avant l'annonce d'un nouveau plan d'électrification revu à la hausse, bonifié, solide, là. C'est une bonne nouvelle, évidemment, pour l'électrification du transport en Amérique du Nord et aussi au Québec. Le budget va passer de 8 milliards à 30 milliards de dollars d'ici 2025. Donc, on quadruple presque l'argent qu'on pensait dépenser d'ici 4 ans pour électrifier des véhicules. le groupe Ford espère que 40% de ses ventes en 2030 seront des ventes de véhicules électriques. Selon le fabricant, ça varie. Là. Il y en a qui voient plus grand que ça, il y en a qui voient un peu plus modestement. Je pense que Ford est assez réaliste et ça reste quand même une bonne nouvelle parce que je pense que ça cache une autre bonne nouvelle. Une bonne partie des ventes de Ford ont lieu du côté des véhicules commerciaux. Ce qui signifie que ce ne sont pas nécessairement des petites voiturettes électriques qui vont être mises en marché. Là.
Non, mais en fait, ce qu'on disait aussi dans le communiqué, c'est qu'on est en train de préparer des plateformes dédiées à l'électrique. Parce que là, pour le moment, les modèles électriques qu'on a sont sur des plateformes conçues à l'origine pour des véhicules avec moteur à combustion interne.
Il va y avoir deux plateformes dédiées,
voilà,
si j'ai bien compris.
Exactement. Une moyenne et une grosse.
Exactement.
C'est comme ça qu'on le dit, là, sans spécifier modèle, mais on comprend que le prochain F-150 va avoir une plateforme à lui.
Autrement, oui, c'est ça.
On parle d'un Explorer électrique qui aurait une plateforme à lui. Puis comme l'Explorer est assez gros, on peut envisager un style expédition ou même un véhicule commercial un peu plus gros un avec la même plateforme.
Ben, il y a déjà le Transit.
Le e-Transit est là, effectivement.
Qui pourra avoir une version qui est un panel, en fait. Donc, qui est vraiment le véhicule commercial de référence, qui d'ailleurs a bien remplacé l'Econoline. Je ne vais pas faire dans la longue histoire des panels, mais quand même, il s'est installé dans le créneau.
On s'entend que l'Econoline est resté au moins 10 ans de trop, là, mais bon.
Ouais, mais pour un véhicule qui a été là, quoi, 60 ans?
140 ans, je ne sais pas. Là, écoute, Mon plus vieux souvenir de véhicule, quand j'étais, mais vraiment pas grand, c'était un Econoline. Je suis rendu à un âge où on pourrait prendre ma retraite. Alors, ça vous donne une idée? Non, c'était là extrêmement
J'ai pas connu
longtemps.
L'Econoline comme un véhicule neuf. Je veux dire, il y a toujours été vieux, ce véhicule-là. Il y avait des formes aussi assez...
Non, mais il a déjà été neuf.
Probablement.
Oh, oui, comme à l'époque, on disait que Fernand Gignac avait déjà été jeune.
C'est vrai. Donnez-moi des roses. Bref, si on parle du Transit et du F-150, ou en tout cas d'une camionnette électrique, là, on voit le marché potentiel dans le véhicule commercial pour Ford en Amérique du Nord. D'ailleurs, parlant de véhicules commerciaux, Ford espère doubler ses revenus dans ce marché-là, qui pourrait passer donc à 45 milliards de dollars d'ici 2025. C'est quand même beaucoup d'argent. Évidemment, il n'y a pas juste l'électrification. Ford veut aussi lancer une gamme de services par abonnement pour l'aider à générer des revenus récurrents, ce qui est un gros truc dans l'automobile en ce moment.
Oui.
Que ce soit à travers l'établissement de réseaux de bornes de recharge où là, bon, on paye à chaque coup. C'est comme un peu des stations-service du futur.
Exact.
Ou l'offre d'applications connectées installées à même le tableau de bord des futurs véhicules. Ça ressemble beaucoup, en fait, à ce qu'on a vu du côté de GM. GM, je pense qu'ils appellent ça le marketplace, là, ce qu'ils veulent faire dans la console des voitures. Et Stellantis, le groupe. Mon Dieu, on peut plus dire européen, américain.
En tout cas, l'autre groupe qui a déjà été américain, mettons.
le reste de la gang, c'est
qui
ça?
Qui comprend Chrysler, Dodge et Ram, entre autres.
Bref, ça vous donne une idée si vous voulez voir un aperçu du futur du secteur automobile. Je pense que Ford vient d'illustrer. Là, il y a de l'électrique en masse, il y a du commercial.
Ouais, puis là, je pense qu'on s'est vraiment commis. Parce que là, ils vont avoir leur propre usine de batterie du côté de la Géorgie. On est en train de bâtir ça. Donc, on travaille aussi en collaboration avec la Corée du Sud pour des batteries à électrolyte solide qui s'en viennent. Jim Farley a dit que ça va être avant la fin de la décennie. Bon, il s'est donné du temps, là, parce que l'industrie automobile, à partir de 2025, là, on va être dans les piles à électrolyte solide.
Puis tout le monde s'en va par là, exactement.
Tout le monde s'en va là. D'ailleurs, Ford travaille avec le même fournisseur que BMW. En passant.
Voilà.
Donc, je pense qu'il y a des fournisseurs qui doivent voir des dollars apparaître dans leur horizon parce que ça va investir joyeusement dans cette technologie-là.
Ah ouais,
donc, faut regarder ça. Tiens, hey, pendant qu'on parle d'électrique, je voulais souligner que nos amis de Lion Électrique, on avait eu Marc Bédard en entrevue ici, ont signé une entente pour une commande de 260 autobus scolaires aux États-Unis.
Ça continue de s'empiler pour eux quand même.
Ben, en fait, c'est une grosse commande. C'est First Student, en fait, qui est le plus grand fournisseur de transport scolaire en Amérique du Nord, qui avait déjà quelques modèles de Lion Électrique, qui a dit, bon, ben là, regarde, on en veut, on en veut beaucoup. Puis bon, Lion Électrique, on le sait, vont établir une usine aux États-Unis pour tomber dans le Buy American Act.
À Joliette.
Oui, à Joliette. En fait,
il n'est pas le Joliette qu'on pense.
Joliette, au Missouri.
En Illinois.
En Illinois, en fait, c'est la prison. Avez-vous vu The Blues Brothers?
Ah, le classique.
C'est lequel des deux frères Blues qui sort de prison? En tout cas, où le film commence, sont dans une prison. Bon, ben c'est la prison de Joliette.
Ah bon?
C'est parce qu'on est passé là pour la route 66, on est arrêté, puis bon, il y a des affiches, c'est bien indiqué, on peut pas le rater. Alors, ça m'a fait penser à ça. Mais cela dit, c'est 260 modèles qui vont être fabriqués. Donc, je pense que du côté de Lyon, là, on est parti, là.
Ben, c'est une première étape parce que l'objectif aux États-Unis, c'est électrifié, je pense, c'est quoi, 500 000 autobus scolaires d'ici 2030. Exact. Donc, je pense que là, on fait des ballons d'essai avec des petits volumes. Mais je pense que les 10 000, les 50 000, les commandes s'en viennent dans les prochains
ans. Ben, c'est ça. Mais je trouve que, bon, le fait d'avoir pris la décision d'aller aux États-Unis était la bonne. C'est assez clair. Si on veut être dans le giron du côté américain. Autre nouvelle de ton côté, Alain, la Mazda 6, ce n'est plus.
Ouais, ben c'est le printemps, donc Mazda fait le ménage, disons-le comme ça. Mazda va mettre fin à la production de deux modèles, en fait, qui sont les moins populaires de sa gamme aux États-Unis.
Ouais.
CX-3 est senti pas si mal ici, mais quand même. Donc, Mazda 6 et CX-3.
Qui vont être retirés aux États-Unis, il faut dire que le CX-3 reste ici quand même.
Exact. Ouais. Dans le cas de la Mazda 6, ben, c'est une voiture qui, même si elle recevait plusieurs accolades annuellement là, dans les médias spécialisés, incluant ici au Québec.
Incluant l'annuel de l'automobile, c'est un véhicule que moi je trouve désolant que ce modèle-là n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait.
Ouais.
C'est un excellent véhicule, mais pour des raisons honnêtement que je ne m'explique pas, ça se vend pas. Bon, OK, les VUS ont pris la part de Lyon de tout ce segment-là.
Exactement.
Et il reste pas grand-chose. Puis t'as déjà deux bons véhicules avec un accord avec la Camry.
Puis t'avais Nissan qui poussait fort aussi.
L'Altima, ouais. Exactement. Donc,
bref, ça a été difficile. Il y avait une Mazda 6 diesel qui a jamais vraiment vu le jour. Qui était
que j'ai essayé.
En plus, tu vois.
J'ai allé au lancement.
Qui était supposé faire une belle job, finalement, qui a jamais vu le jour, malheureusement. Bref, celle-là va disparaître après l'année modèle 2021. Le CX-3 va disparaître aux États-Unis.
Exact. Moi, je pense qu'il est en sursis ici, là, parce que avec le MX-30 qui s'en vient, le CX-30 qui est déjà là, tu dis, OK, on met ça où, un CX-3, juste, là?
Exactement.
Moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être garder le 2022 parce qu'il reste un certain nombre de modèles.
On va écouler les stocks, exactement, puis, finir la génération actuelle.
Fait que ceux qui veulent un CX-3, moi, je vous recommanderais de faire assez vite.
moins qu'il l'écoule à un prix débarras, parce que le CX-30 est pas ben plus cher, en offre un petit peu plus en termes de confort.
Exact.
C'est affaire plus gros, mettons, là, soyons généreux.
Et
incarne plus la nouvelle image. Mazda, c'est de se définir comme une marque plus haut de gamme, avec des guillemets. J'ai mis des guillemets dans mon texte parce que faut quand même les garder. Et comme tu le dis, le MX-30 devrait arriver d'un jour à l'autre. En fait, je pense qu'il va arriver cet automne, donc à la fin de l'été. Et il devrait combler une autre partie de la demande. J'ai hâte de voir le MX-30. Il manque encore des informations sur l'autonomie exacte, ce genre de choses.
200 km. Écoute,
200-250, c'est ce qu'on voit.
200-250.
Mais c'est pas une grosse batterie, c'est
35,5 kWh, effectivement. Moi, j'ai essayé cette batterie-là dans un châssis de CX-5 parce que le modèle n'était pas encore prêt. Et les ingénieurs nous ont dit chez Mazda que dans un premier temps, on allait avoir un modèle 100% électrique, donc ce qui arrive cet automne.
Exact. Et
Est resté sur la décision de faire uniquement un véhicule avec 200 km d'autonomie. Mm-hmm. Et on va ajouter un moteur rotatif comme prolongateur d'autonomie pour l'année modèle qui va suivre. Donc, l'année modèle qui va suivre, ça va être un 2023. Ce qui va arriver au printemps, à l'été ou à l'automne, là, c'est encore à déterminer.
Ça va être intéressant de voir ce qu'ils peuvent
Mais
faire.
Mais ce que je souhaite, c'est qu'on laisse le 35,5 kWh. Là, tu aurais un hybride rechargeable avec 200 km d'autonomie. Là, on commence à jaser.
Ce serait un hybride très attrayant.
Ce serait un hybride extrêmement attrayant. Moi, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'avantages à aller vers cette version-là que le tout électrique avec seulement 200 km. Mais ça, on va voir.
Oui.
Tiens, en terminant, parce que on doit aller à la pause bientôt, Genesis a annoncé les prix du GV80. Ça, c'est le prochain véhicule utilitaire de la famille. J'ai dit 80, le GV80 existe déjà. Le GV70 s'en vient avec les mêmes motorisations que le GV80 dans un format un petit peu plus petit. 49 000 $, ça c'est le prix de départ. Bon, évidemment, c'est pour le moteur 4 cylindres de base. Si vous passez au modèle Advance, vous allez à 55 000. Le Advance Plus est à 59 000. Puis si vous allez dans les versions 3.5, vous partez à 68 500 puis 75 500 pour un modèle bien équipé.
Donc, 75 000
quand même. En fait, et on voit la tendance du côté des Coréens, là, je dirais que depuis 2-3 ans, bon, évidemment, Genesis se mesure au modèle haut de gamme. On parle de BMW, Audi, et on ne veut pas nécessairement les offrir à moindre prix, mais on veut offrir plus d'équipements à prix égal. Mm-hmm. Et on va voir si cette stratégie-là fonctionne. On n'a pas roulé le modèle, on l'a vu. Genesis nous a fait une petite présentation dans leur boutique au Carrefour Laval.
Ouais.
Et on a embarqué dedans, bon, blablabla. Là, évidemment, il reste à mettre les fesses au volant puis à rouler ça.
Les fesses au volant, toi.
Les fesses sur le siège avec le bonhomme derrière le volant. Oui, c'est vrai.
Heureusement qu'il y a une aide de conduite.
On peut faire ça dans un Tesla, probablement. Ah. Alors, donc, c'est, en principe, c'est pour quelque part cet été. Alors, on attend ça à suivre, effectivement. Alors voilà, ça fait le tour rapido, parce qu'il y avait d'autres nouvelles, mais on a fait le tour des principales. On va aller rapidement à une pause et on va revenir avec Tino Rossi pour parler partage auto-vélo.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Avant de passer à notre invité, M. Tino Rossi, je veux vous dire que le balado Ça tient la route peut être écouté en ligne sur vos plateformes préférées, Spotify, Google, Apple, sur le site balado du 98.5.ca et sur annuelauto.ca. On fait aussi la mise à jour chaque semaine. Si vous avez des questions, on vous invite à le faire. Vous faites balado avec un S à 98.5fm.ca. Voilà, l'annonce est faite. Notre invité est connu des gens du cyclisme dans la grande région de Montréal. Il est animateur depuis des années, des mardis cyclistes de la chaîne qui sont là depuis, mon Dieu, des générations. Il s'agit de Tino Rossi. Tino Rossi, bonjour!
Comment allez-vous?
Ben, ça va très bien. Alors, notre sujet du jour, je pense que c'est un sujet qui vous tient à cœur et qui me tient à cœur, je dois le dire aussi. Parce que, bon, oui, je suis quelqu'un d'automobile, mais je suis d'abord et avant tout un éducateur physique qui a fait beaucoup de sport, qui pratique encore beaucoup le vélo et qui est sur les pistes cyclables de façon régulière dans la région de Montréal, la Rive-Sud. Et j'ai réalisé depuis le début de l'été, parce qu'on a eu un printemps hâtif, il a fait beau de bonne heure. Moi, début avril, j'étais à vélo. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas été à vélo. Et dans de bonnes conditions, faut l'avouer.
Ben, je vais aller plus loin que ça. Le vélo d'hiver aussi, c'est un phénomène très émergent. Bon, donc, ça n'arrête plus. Là.
Voilà, le vélo d'hiver, c'est vrai que c'est de plus en plus pratiqué. Et là, cette année, ce que j'ai trouvé, c'est que les pistes cyclables dans la région de Montréal sont immensément occupé. Je donne quelques statistiques parce que on a réalisé que, bon, en 2019, il y a 8 cyclistes qui ont trouvé la mort au Québec. En 2020, on était à 14. Et cette année, on a déjà, je pense, et vous me corrigerez, Tino, c'est 6 victimes de la route et 5 personnes qui ont été blessées. Donc, c'est pour un total de 11. Et on est encore au mois de mai, là. Donc, la saison est extrêmement... on est tôt dans la saison. Puis, il y a de plus en plus de cyclistes sur la route. Il y a beaucoup de nouveaux usagers. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disaient que, bon, eux, pour éviter d'être dans le transport en commun, pour éviter d'être avec trop de gens qui sont prêts, on a préféré se rééquiper en vélo. Et j'ai l'impression que ces gens-là ne sont pas toujours tout à fait au courant des réglementations qu'on a sur les pistes cyclables.
Il y a aussi les distances. Les gens, ils marchent sur la piste cyclable. Souvent, ils prennent plus d'espace.
Voilà,
donc,
exactement.
Ça cause, évidemment, beaucoup plus de congestion.
Alors, Tino Rossi, ma première question sera les voies cyclables en zone de circulation automobile. Là, on parle des voies cyclables dans la ville de Montréal ou dans les pourtours. Est-ce que ces infrastructures-là sont encore bien adaptées pour les besoins des cyclistes?
La question est pertinente. La question est très, très bonne. Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Il y a des cyclistes que lorsque des voitures qui circulent pas loin sont inquiets. Cela étant, on sait qu'avec Valérie Plante, un de ses projets, c'est de rendre la ville accessible à tous les cyclistes. De là, l'intérêt vers le REV, le Réseau Express Vélo.
Oui.
Également, la plupart des gens l'utilisent quand tu es sur la piste cyclable. Ce qui arrive, et vous l'avez dit avant, c'est que de plus en plus de gens, de plus en plus d'utilisateurs qui se trouvent sur la piste cyclable. Le parc cycliste, de par la pandémie, a augmenté de façon considérable, de façon exponentielle. Fait que là, en ce moment, tu te retrouves sur la piste cyclable avec tout plein de monde. Puis vous l'avez dit, par la force des choses, à cause de la COVID, il y en a qui viennent de découvrir le vélo, ils l'ont sorti des boules à mythes, ils se retrouvent sur la piste cyclable avec peu d'expérience. Il y en a qui prennent les pistes cyclables, malheureusement, pour des pistes de course, des cyclistes qui oublient de ralentir quand ils courent sur celle-ci. Donc, il y a un amalgame sur les pistes cyclables, puis la cohabitation, malheureusement, parfois est quelque peu défaillante. Donc, en gros, c'est un survol de ce qui se passe sur les pistes cyclables et sur les accès permis aux cylistes.
Ouais. Faut élargir le problème au-delà de Montréal parce que il y a un an ou deux, il y a la ligne Oka-Saint-Hilaire qui a été inaugurée, qui est un réseau de pistes cyclables qui relie vraiment la ville d'Oka à Saint-Hilaire. C'est quand même assez grand. Donc, évidemment, il y a un phénomène là qui est du très grand Montréal et il y a différents niveaux de pistes cyclables. Il y a des pistes qui sont isolées de la route. Il y a des pistes qui sont essentiellement à l'accotement avec une ligne blanche de plus. Il y a différents niveaux de pistes cyclables. Qu'est-ce qu'il a? Il donne une solution pour rendre tout ça plus sécuritaire?
Écoute, s'il y en a une, j'ose espérer qu'on va la trouver vite fait. Mm-hmm. Okay? Vous l'avez dit, il y a des pistes cyclables qui, eux, en principe... Mais en fait, même si on considère les voitures, puis on considère les vélos, quand tu trouves, que ce soit sur une piste cyclable ou en bordure, quand c'est délimité pour les vélos, quand tu trouves là-dessus, tu as la responsabilité d'être prudent. Le mot-clé dans tout ça, c'est respect et cohabitation. Puis quand je dis cohabitation, c'est quand tu es sur la piste cyclable, que tu sois parfois en vélo électrique, parce qu'on sait qu'il y a un engouement pour les vélos électriques, que tu sois à pied, parce que des fois, tu n'as pas le choix de l'emprunter à pied, que tu sois à vélo ou autre, il faut que tu le fasses en tout respect. Puis si tu es automobiliste, parce que souvent les automobilistes sont à la fois les deux, parfois cyclistes, parfois automobilistes, mais il faut pas avoir peur des fois de bifurquer sa trajectoire, de ralentir quelque peu. Faut respecter les cyclistes. Il en va, et j'insiste sur ça, il en va du bien commun. Parce que vous l'avez dit d'emblée, comme qu'on est parti là avec le nombre de morts, puis c'est vraiment ainsi qu'il faut le dire, le nombre de morts, on est juste à peu près quoi, à la mi-mai, ben c'est dramatique, puis il faut que ça cesse parce que on est en train d'enregistrer des scores de mortalité comme jamais vu, sans précédent. Puis tout le monde, sans exception, doit y mettre du sien. Parce que je me répète, mais par le biais de la pandémie, les gens ont redécouvert le vélo. Puis je pense pas que ce soit passager. Je pense pas que ce soit une mode. C'est là pour rester. Fait qu'il faut adapter nos habitudes. C'est une condition sine qua non pour qu'on soit tous gagnants dans tout ça.
Je vais donner des exemples. J'ai eu l'occasion de rouler en Europe. J'ai fait quelques tours de vélo en Europe en vacances. Et il y a des villes, je l'ai remarqué du côté de l'Allemagne, je l'ai remarqué du côté de la France aussi, dans certaines villes, on délimite la vitesse des voitures dans les zones où il y a des pistes cyclables. C'est-à-dire que si une piste cyclable, généralement, là, c'est à peu près 30 km/h la limite qu'on impose dans des pistes cyclables. Bon, ben, on impose les rues adjacentes en voiture à 30 km/h, justement, pour essayer d'atténuer si jamais il y a un choc, une collision ou on passe proche, de faire en sorte que le trafic automobile et vélo roulent à peu près à la même vitesse. Est-ce qu'on peut envisager des choses comme ça du côté de Montréal?
Écoute, certes, c'est envisageable. Je ne dis pas le contraire. Tant mieux si ça l'aide. N'importe quelle option, n'importe quoi qui peut aider la sécurité des cyclistes, on s'entend, c'est bienvenu. Mais je pense qu'en ce moment, avec ce qu'on a comme infrastructure, si chacun, puis je me répète, les médecins, exemple, respecter les vitesses, ne pas conduire avec les facultés affaiblies. On en a parlé souvent, les textos au volant, il faut complètement arrêter ça. Si juste dans l'immédiat, on met en pratique ces bonnes habitudes-là, je pense que concrètement, ça peut donner de bons résultats. Tant mieux si le gouvernement ou d'autres instances investissent de l'argent et en viennent à faire ce que vous venez de décrire. Tant mieux, j'ai rien contre, ça va être un gros plus. Mais dans l'immédiat, pas de frustration au volant, pas de textos, pas de vitesse, évidemment, pas de faculté affaiblie. Tout ça va grandement aider. Faudrait, évidemment, il y a la responsabilité des automobilistes, mais également la responsabilité des cyclistes. Lorsque vous allez sur la voie, la chaussée, où il y a des automobiles, de grâce, prudence. Des fois, j'en vois, je circule sur le boulevard La Salle, puis je veux pas les critiquer, les cyclistes, mais ils sont là, puis ils n'aident pas leur cause. Ils roulent entre deux voitures.
Ouais, ils roulent entre deux voitures, puis boulevard La Salle, c'est presque une autoroute aussi. Là. Ouais. Il y a certains bouts du boulevard La Salle, là, on est plus proche de l'autoroute que d'une rue.
Mais il devrait avoir une règle. Le plus gros devrait être responsable du plus petit, peu importe le véhicule. La même chose vaut pour les mobilettes et les motos. Là. Les gros véhicules devraient faire plus attention aux plus petits véhicules.
Oui, puis il y a le corridor. Je pense que moi, je l'ai vu sur certaines routes secondaires. Quand je vais faire quelques sorties de vélo, là, le gouvernement a installé un certain nombre de pancartes où on demande le mètre et demi de distance entre le véhicule et le vélo. Et
ça va des deux côtés. Tu sais, quand on roule à vélo sur une route publique, faut rouler en file indienne. Faut pas se mettre 4 de large puis prendre toute la route. La route est à partager et pas à conquérir. Je pense que ça va des deux côtés, mais il y a une certaine délinquance du côté des conducteurs qui se retrouve, je pense, du côté des gens à vélo. Les Québécois, je pense, sont des latins de nature et on a le sang bouillant, on a de la misère des fois à retenir nos ardeurs. Mais je pense que le message que vous donnez, Tino Rossi, est intéressant parce qu'il faut être capable de se mettre dans la peau de l'autre. Si on est à vélo, on se dit, OK, la voiture, Alain l'a souligné, beaucoup plus grosse que moi, de grâce, parce que bon, on parlait en introduction d'entrevue tantôt, la dame à Senneville qui est décédée. On a appris que c'est une dame de 50 ans qui est décédée, qui était dans la piste cyclable, là, qui était tout à fait dans son droit, mais c'est une conductrice qui a pas pris la courbe, littéralement, qui l'a happé. Puis on a appris que cette dame-là avait les facultés affaiblies un peu plus tard. Donc, l'exemple que vous donniez tantôt est très bon. Il faut être conséquent, prudent, parce qu'une piste cyclable, on arrive dans une courbe, puis on ne le sait pas. Des fois, il y a un angle mort qui est assez grand où il y a une espèce de point aveugle. D'ailleurs, j'ai vu dans d'autres villes où on a identifié des zones à risque d'accident. Et j'ai vu, entre autres, du côté de Vienne, il y a des miroirs sur certaines intersections pour les vélos. Mm-hmm. Pas pour les autos, pas pour les camions, pour les vélos, parce que c'est un coin où on voit pas où on tourne. Puis en regardant le miroir, on voit la circulation. Donc, on a décidé que c'était une zone à risque et on a identifié l'endroit de façon à ce que les cyclistes puissent au moins savoir s'il y a quelque chose qui s'en vient avant de tourner la fameuse courbe.
Il y a beaucoup de délinquance aussi, parce que je ne suis pas allé voir, mais je pense que le fameux belvédère là, sur Camille-Lien-Aude est encore problématique.
Et pourtant,
ça devrait être réglé depuis longtemps.
On a un bon ami qui s'en est tapé une violente collision, mm-hmm. là, effectivement, il n'y a pas longtemps.
Non, vous l'avez dit, le belvédère, c'est loin, malheureusement, d'être réglé. Malheureusement, il y a encore toujours un embouteillage à cet endroit. Ouais. Et c'est très, très problématique, très dangereux. C'est vraiment une zone très névralgique. Et comme vous l'avez dit, pour pas le nommer, malheureusement, Clément Ouimet qui a perdu la vie à cet endroit. Et ça doit servir d'exemple. Il faut être prudent. Autant les automobilistes, s'il vous plaît, quand vous êtes à cet endroit, c'est-à-dire au belvédère, circuler, restez pas là.
Si vous passez là quand il fait beau, c'est sûr qu'il y a des vélos. Je veux dire, moi, j'ai resté à Montréal dans Côte-des-Neiges pendant 4 ans, puis c'est là qu'on va s'entraîner. Tout le monde va s'entraîner là, ou presque, qui reste sur l'île de Montréal. Donc, quand il fait beau l'été, pensez pas qu'il va peut-être avoir des vélos. Non, il va avoir des vélos.
C'est l'occasion d'essayer des vélos Bixi électriques pour y aller, stationner ailleurs, puis aller en vélo vous-même. C'est la meilleure solution.
Mais vous avez raison. C'est moindrement, tu veux à Montréal, sur l'île de Montréal, faire un peu de côte, présente à Camille-Lien-Aude, tu vas un soir de semaine ou la fin de semaine. Si tu veux faire du plat, habituellement, tu vas au circuit Gilles Villeneuve, c'est l'un ou l'autre, c'est selon. Mais comme je dis à mes amis cyclistes, quand vous allez à Camille-Lien-Aude sur le Mont-Royal, OK, quand vous montez, quand vous grimpez, parfait, donnez-vous-en à cœur joie. Par contre, quand vous redescendez la pente, c'est pas le temps de descendre super rapidement. C'est pas là ce que vous allez gagner du temps.
Essayez pas de faire un Bernard Hinault de vous-même, là.
Exactement.
La fameuse vitesse.
Essayez pas de faire un Bernard Hinault de vous-même. Exactement. Exactement. C'est dit avec ironie, mais c'est tellement ça. Okay? C'est tellement ça. Bernard Hinault, quand tu descends un col en Europe, là, autour de France ou ailleurs, là, c'est balisé. Il n'y a pas personne qui peut s'en donner à cœur joie.
La piste est fermée, on peut s'en donner à cœur joie, ce qui n'est pas le cas avec Camille-Lien-Aude. Alors, si vous rencontrez une voiture et que vous descendez la côte à plus de 50 km/h, je peux vous annoncer officiellement que vous n'aurez jamais le temps d'arrêter.
On s'entend là-dessus.
Écoute, merci beaucoup de votre temps, Tino Rossi. C'était fort intéressant comme entrevue. On va voir ce qui va se passer cet été. On a lancé des suggestions. Mais il risque peut-être d'y avoir un suivi, puis on saura qui appeler à ce moment-là.
Écoutez, je vous dis merci de m'avoir donné cette opportunité, cette tribune. Puis en terminant, si vous permettez, un genre de cri du cœur à tous les utilisateurs, que vous soyez cycliste ou automobiliste, s'il vous plaît, et de grâce, on prône la cohabitation, il en va du bien commun. C'est important.
Voilà.
Quand tu pars en vélo, tu dis bye-bye à ta femme ou à tes enfants, une heure et demie plus tard, tu rentres à la maison tout en un morceau.
Exactement, puis c'est comme ça qu'on voudrait que ça reste.
Oui, on s'entend là-dessus.
Merci beaucoup, Tino. Ça marche.
Merci.
Alors, c'était Tino Rossi, qui est animateur des Mardis cyclistes. Lui-même, grand amateur de cyclistes, qui a sillonné l'île de Montréal d'un bout à l'autre, qui nous parlait justement cohabitation auto-vélo. On va à la pause et on revient avec nos essais routiers.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Et on n'a pas vidé le sujet de l'auto et des vélos parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à parler. Oui. On n'a pas parlé des casques, on a parlé de sécurité, on a parlé des zones, refaire parce qu'on a parlé d'infrastructure. Il va falloir revoir ça aussi, adapter. Bref, mais...
Allons à dire.
On y reviendra sûrement. Mais sur ces bons mots, on va parler de nos véhicules de la semaine. Tu me disais en début d'émission, Alain, que tu as essayé la Volvo S60.
Oui.
qui est un classique réinventé. On peut-tu l'appeler comme ça?
Je pense que oui. Je pense qu'il y a le oui.
Parce que
pas besoin de l'expliquer.
J'ai eu l'occasion moi aussi de l'essayer. Mm-hmm. Le nom a déjà quelques générations, mais on a complètement repensé le format, le moteur, même le confort qu'on avait a été mis au goût du jour. Alors, vas-y, je te laisse aller là-dessus.
Oui, ça, d'ailleurs, on le disait tantôt, c'est le printemps, ça bouge. Il y a un petit peu de ménage dans les catalogues. Volvo l'a fait un peu avec la 60. On a mis en marché la S60 Recharge. En fait, on a rebrandé ce qui était la 60 T8. Édition en moteur hybride branchable qui paraît attrayante, mais sur papier seulement, qui est peut-être un petit peu moins en personne, coûte plus cher.
Je la trouve chère.
Ben, c'est ça pour une trentaine de kilomètres électriques, une consommation d'environ 7 litres au 100 km. Vraiment, l'élément clé, c'est ça. C'est une consommation moyenne d'environ 7 litres au 100 km. Ça dépend évidemment de l'utilisation.
Oui, très honnêtement, là, la T5 de base est probablement le modèle le plus intéressant quand on regarde le prix qu'on paye. Là.
C'est ce que j'allais dire. Dans le cas de la S60 T5 Air Design, qui est le véhicule que j'ai essayé, coûte 52 000 $ et des poussières.
Ouais.
C'est situé à peu près au milieu de la gamme des versions proposées par Volvo pour cette berline-là. Moi, je le trouve assez séduisante de plein de façons, en fait. Et notamment le fait que, sans être très high-tech, est équipé d'un moteur turbo qui, surtout si vous faites vraiment beaucoup, beaucoup d'autoroutes, offre une consommation d'essence d'à peu près, d'un peu plus que 7 litres au 100 km. Donc, on arrive à peu près au même résultat qu'une hybride branchée avec une voiture qui est simplement 4 cylindres.
En payant beaucoup moins cher aussi.
Ben, il y a ça exactement.
Ouais.
Puis, je veux dire, à la fin de la journée, on a quand même 250 chevaux. Dans une voiture, donc, d'un format intermédiaire.
Très confortable, bien construite. Les sièges devraient servir de mesure étalon pour l'industrie automobile, à mon avis. Volvo.
Ah bon, ben, je suis content. Je me demandais si tu étais tout seul à trouver ça, mais effectivement, elle est extrêmement bien assis. C'est un fauteuil sur quatre roues.
C'est ergonomique, c'est confortable. Moi, je suis allé il y a quelques années. En fait, quand la S60 est sortie, je suis allé à Rimouski. Je suis arrivé là-bas, littéralement frais dispo, là, tu sais, pas mal au dos, pas de courbature, rien. Puis, tu sais, les gens, puis je vais même pousser jusqu'à dire que les gens qui ont le dos fragile, il y a des gens qui ont des problèmes de dos chroniques, allez voir une Volvo.
Ouais.
Honnêtement, là, les sièges sont, mais vraiment très confortables.
Ouais. Juste pour revenir sur la mécanique rapidement, on dit T5, et comme ça ne le dit pas, en fait, c'est un 4 cylindres turbo, donc qui est, à mon avis, extrêmement bien jumelé aussi avec la boîte automatique à 8 rapports qui va chercher le petit boost là, du turbo au bon moment, pas mal tout le temps.
Et c'est la qualité de cette boîte-là, contrairement à d'autres, cette boîte-là ne chasse pas toujours à l'économie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de boîtes automatiques à 50 km/h, t'es en 8e. Parce qu'il veut rouler à l'économie.
Exact.
Puis quand tu fais une accélération, un dépassement, ta boîte est constamment à la recherche du bon rapport et c'est pas le cas avec cette boîte-là.
Non,
cette boîte-là est très, très bien étagée.
Quand c'est à vitesse de croisière, c'est confortable. Le turbo embarque quand tu as besoin d'une accélération, d'une reprise sur autoroute. C'est là vraiment où tu as besoin de ça.
Exact.
Et tu vas chercher ce surplus de puissance au bon moment. Au volant, bon, on l'a dit, c'est le confort qui prime. L'édition Air Design se veut un peu plus sportive. C'est surtout très visuel. Il n'y a pas grand-chose de différent. Les baquets sont extrêmement confortables, on l'a dit. Pour résumer le comportement routier, je dirais qu'il est à mi-chemin entre ce qu'on attend d'une berline européenne, disons comme une Audi, et une berline haut de gamme japonaise. C'est comme une Audi qui rencontre une Lexus, maintenant.
C'est bien expliqué, effectivement. Ben, oui. On n'a pas le côté BMW. On n'a pas le côté des modèles AMG tout à cabine du côté de Mercedes.
Exact.
Il y a un côté confortable qui est particulier au modèle suédois. Là. On retrouvait ce même genre de confort-là dans des sables.
Ben, il y avait, c'est ça.
Qui ont essayé les sables. Là.
Disons un exotisme plus qu'un certain luxe. Voilà. Parce que ça reste assez sobre, mais c'est quand même efficace. Volvo ajoute quand même une touche de modernité avec son fameux régulateur de vitesse évolué. Bon, je ne veux pas dire conduite autonome parce que c'est pas ça. Mais qui permet quand même de gérer la conduite, disons-le comme ça, sur des longues portions d'autoroute. Ce qui est agréable jusqu'à ce qu'il décroche pour une raison que généralement on ignore un peu, que ce soit parce qu'il ne reconnaît plus les lignes au sol ou peu importe. Mais ça ajoute un certain confort, et, disons, ça repose l'esprit sur les autoroutes.
Absolument. Dans le trafic. Le régulateur de vitesse est bien ajusté. Là, si on fait des longs trajets, là, ça devient. On relaxe. Faut pas tomber non plus dans l'hypnotisme route. Là.
Faut pas être distrait. Faut pas que ça devienne une distraction. Puisqu'il est question de confort, notons aussi les qualités de finition de l'habitacle en général et surtout la sonorisation embarquée qui fait du bon boulot. Les modèles plus haut de gamme ont droit à une sono Bowers & Wilkins qui, juste le nom devrait vous le dire, c'est remarquable. je fais un parallèle. J'ai acheté des écouteurs Bluetooth pour le télétravail, pour l'ordinateur. Ouais. Bowers & Wilkins aussi, et le son est écœurant. Donc, je peux imaginer dans une voiture, ça vous donne une idée de
absolument. On est dans le très haut de gamme. Là. Il y a Meridian qui en fait du bon.
Ouais. Souvent, il y a Harman Kardon qui est très plaisant.
Harman Kardon, Burmester, exactement. Du côté des Allemands.
Donc, on est dans ce niveau-là. Le gros bémol, c'est l'espèce d'écran tactile qui se veut une inspiration d'iPad qui est dans la console centrale, qui est... Bon, qui demande une certaine...
Il y a beaucoup de sous-menus.
Il faut s'habituer.
Oui.
Effectivement, il faut glisser, il faut lever, il faut appuyer. Il y a bien des affaires qui rendent l'interface peut-être pas optimale, mais une fois qu'on l'a compris...
À la fin de la semaine, je t'ai popé.
Ouais. Ben, moi, je veux dire, j'ai un gros irritant, c'est que pour l'essayer, on m'a fourni la clé valet, donc il y a des limites. On peut pas tout configurer.
Oui.
Donc là, il y a des réglages du véhicule qui sont dans cette interface-là,
qui sont pas accessibles.
Ouais. Et ça, c'est un peu agaçant parce que, entre autres, le dispositif d'arrêt démarrage du moteur, tu sais, qui éteint le moteur au point mort, il n'y a pas de bouton physique pour l'activer ou désactiver. Il faut le faire dans le système
menu,
et il n'est pas là à cause de ça. Bref, c'est un système qui demande un certain apprentissage et qui n'est pas parfait, mais qui est dans l'air du temps et qui fait voiture de luxe. Bref.
Exact. À la fin de la journée, t'en prends une ou t'en prends pas une?
Ben, moi, je te dirais, c'est pas une Polestar 2. Malheureusement,
non.
Parce que j'irais plus dans ce genre de véhicule-là.
Ouais.
Mais si vous cherchez quelque chose qui fait beaucoup d'autoroute, vous n'êtes pas prêt à aller dans l'électrique. Tu sais, le 4 cylindres turbo fait la même job qu'une hybride. Donc, sur autoroute, en termes de consommation, il y a ça. Une voiture extrêmement confortable. Il y a définitivement un intérêt là pour les gens qui sont dans ce genre de besoin-là, pour une voiture confortable sur autoroute.
Puis je le répète, mais ceux qui ont le dos fragile, là,
oui,
allez essayer une Volvo parce que vous allez être agréablement surpris. Moi, de mon côté, j'étais dans l'hybride branchable aussi, Toyota Prius Prime. Que j'avais, à mon grand regret, pas encore eu l'occasion de rouler. Là, j'en ai finalement une. Évidemment, quand on cherche une Prius, on cherche l'économie. Je connais pas personne qui a acheté une Prius pour le côté nerveux de la conduite. Là, vous êtes mais vraiment pas à bonne place. Mais une fois qu'on sait ça, c'est un véhicule, je dirais, que c'est beaucoup amélioré. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, j'ai été dans les lancements des toutes premières Prius.
Depuis le
Prius
début.
Prius de base. Oh, Seigneur.
On se rappelle tous en 2004.
C'était drabe, pour employer un mot poli. Là, on a quand même une conduite qui est un peu plus amusante, sans être sportive ou nerveuse, mais on a quand même une conduite qui est correcte. L'économie de carburant, là, tout dépend. Parce que vous avez un hybride branchable. Si vous utilisez les 40 km d'autonomie à leur pleine mesure sur une base quotidienne, vous utiliserez à peu près jamais le moteur à essence. Ça dépend de ce que vous faites. Et ça fait 40 km. En fait, j'ai même fait 41. Je ne l'ai pas eu l'hiver, mais les gens à qui j'ai parlé m'ont dit que ça roulait entre 30 et 32 l'hiver, ce qui est quand même pas trop pire. Là, vous allez faire aussi bas que 2 litres au 100 si vous roulez régulièrement sur la réserve électrique. Ça m'a pris, j'ai rechargé sur une prise là 110 à la maison, sans effort. Ça a pris 5h30.
Ouais.
Parce que bon, c'est pas énorme. Ça prend à peu près 2h30 sur une prise phase 2.
Une borne phase 2
d'Hydro-Québec, là, circuit électrique, c'est à peu près 2h30. Bon, c'est 40 600 $. Est-ce que c'est trop cher, pas assez cher?
si on compare, vous pouvez avoir du 100% électrique qui commence à peine plus cher que ça. Si vous achetez une Soul EV, c'est 42 695 $ pour une Soul EV 100% électrique. Par contre, est-ce qu'il faut être prêt à faire le saut en électrique complètement? Moi, je trouve que pour quelqu'un qui veut regarder, voir si il peut aimer ça, s'habituer, je pense que le Prime est une bonne solution.
Oui, ben, y a beaucoup de gens qui n'ont pas de borne à la maison qui achètent une hybride branchable. C'est une option.
Voilà,
ouais,
ça c'est une option pour les gens qui ont peut-être pas de borne et ou pour des gens qui ont des parcours définis. C'est-à-dire que bon, ben, moi je vais au travail du lundi au vendredi, le travail est à 20 km de chez nous. Je fais l'aller-retour batterie, je branche le soir, puis vous allez vous promener littéralement sur de la batterie toute la semaine. Et si vous allez ailleurs la fin de semaine, ben vous pouvez vous rendre sans problème. Donc, c'est une question d'approche et de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec.
Faut dire aussi, la Prius Prime surfe sur le renom de du nom Prius.
Exact.
Y a, tu sais, Honda Clarity, qui est méconnu, est un bon véhicule, un screenolo aussi. Il y a des options plug-in, mais il y a certainement un marché là. C'est sûr, moi, mes voisins en ont une, puis ils utilisent beaucoup la Prius Prime comme voiture familiale dans la mesure où ils laissent les ados la conduire, parce que c'est une voiture qui est relativement sécuritaire et plus dynamique, disons, c'est pas une bombe. Donc,
effectivement.
Il y a ce côté-là aussi qui est intéressant.
Puis, bon, oui, en prenant, là, parce que bon, je roule généralement sur de plus longues distances quand je sors, mais ma moyenne à la fin de la semaine était à 4,7 litres au 100. Ça, c'est combiné en prenant le côté électrique et le moteur qui est embarqué.
Mm-hmm.
On est en bas de 5. Là. On s'entend qu'en bas de 5, là, je peux pas critiquer quelque chose qui fait en bas de 5. Là, c'est vraiment pas beaucoup. Je vous dirais que si les gens ont beaucoup de petits déplacements, ça peut être un modèle intéressant aussi parce que vous allez littéralement toujours rouler à la batterie. Bon, il y a des petits irritants. La visibilité arrière avec l'espèce de vitre là, qui est coupée en deux.
Ouais,
là,
c'est un rayon
un peu tannant. Puis, bon, ils ont refait l'écran d'infodivertissement, l'écran central, là, c'est, je pense, il y a 2 ans, où j'essaie de me rappeler, là, mais c'est un écran à la verticale, pas à l'horizontale. Puis, il y a bien des affaires dans l'écran. Là. L'écran partagé en deux, en trois, t'as t'as l'espèce de système de navigation en haut, t'as la radio dans le milieu, puis il n'y a pas de bouton. Ça m'énerve.
Ouais. C'est, ouais, Toyota, on a de la misère avec l'interface.
C'est peser, siffler, tourner. Là, je dis, non. Ça, là-dessus, il y a du travail à faire. Bon, ils ne sont pas allés jusqu'à mettre une fameuse...
ils ont laissé faire le pavé tactile. Oui, ça, c'est l'exclusivité de Lexus.
Ça ne me dérange pas que ça soit
ça pourrait disparaître. Non,
ça pourrait, dans mon cas, disparaître définitivement. Ouais. Mais il y aura un peu de travail à faire au niveau de mettre de l'ordre un peu dans cet écran-là.
Mm-hmm.
Les fonctions sont toutes là, tout ça, mais c'est distrayant parce que on doit toujours avoir les yeux sur l'écran pour savoir. Là, j'ai juste voulu changer une station de radio, puis t'as le doigt sur l'écran tactile. Puis là, le volume est pas assez haut, mais t'as pas de bouton. Il faut aller à droite pour le volume. Donc ça...
Je vais te dire un truc un peu bizarre, mais leur écran t'as, est salissant aussi.
Oui.
Je sais pas, c'est pas tous les véhicules, mais on voit les traces de doigts. Puis c'est,
ben,
c'est...
Surtout quand tu fais soleil, si t'as le soleil dedans, là,
ça
tu
reflète,
rien que des
ouais, exactement. Donc c'est peut-être pas la technologie la
mais
plus
bon,
récente.
Mais bon, je vous empêcherai pas d'acheter un Prius Prime pour ça.
Non.
C'est un irritant, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est, un, très fiable, deux, qui va vous donner une autonomie qui est correct. J'aimerais mieux plus que 40 km. Moi, à partir de 60, on commence à jaser, là, dans mon cas à moi. Et c'est un véhicule tout à fait recommandable. Alors, c'était nos deux essais pour la semaine. Vous entendez la petite musique. On est déjà vers la fin de l'émission. Merci d'avoir été là, Alain, comme d'habitude. Merci à notre invité, Tino Rossi. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. J'aurai à l'essai la semaine prochaine un Hyundai Palisade.
Oh, quelque chose de gros.
Salut bien. Bye-bye.
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.